Bien, écoutez, bonsoir à tous. Je dois dire que je suis particulièrement heureux d'être ici ce soir pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une occasion d'interagir avec Clément Sanchez et j'espère que je serai en phase avec ce qu'il vous a raconté depuis le début de son cours et particulièrement dans cette dernière leçon, mais aussi parce que j'ai passé presque 20 ans dans cette maison, dans le laboratoire de physique de la matière condensée. Et les sujets dont je vais vous parler, on les a juste commencés à la fin de mon séjour ici. Et je ne vais pas simplement vous parler de ces travaux, mais placer ça dans un contexte un peu plus général. Le sujet de cet après-midi, c'est l'eau sur coussin d'air. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous donner un certain nombre de recettes et tenter de vous convaincre de l'intérêt de savoir placer l'eau sous coussin d'air. En particulier, vous le devinez tout de suite, parce que coussin d'air, c'est un aéroglisseur, pour donner à l'eau des propriétés de mobilité qu'en général, elle n'a pas à petite échelle. L'eau des rivières circule, mais l'eau des gouttes circule mal, et l'eau des gouttes est fréquente, c'est celle qui résulte d'une pluie, par exemple, et donc il peut être très intéressant de savoir la mettre sur coussin d'air. Donc, dans un premier temps, des recettes. Dans un deuxième temps, je vais explorer pourquoi dans la nature, c'est une question très vaste et difficile, pourquoi dans la nature il existe un certain nombre de situations où l'eau est sur coussin d'air? Autrement dit, quelles sont les fonctions que les matériaux qui ont cette propriété engendrent? Et puis, dans un troisième temps, de manière un peu plus brève, eh bien, je vous parlerai d'un cas où l'air est un peu spécial. L'air est une vapeur, c'est-à-dire que c'est l'eau elle-même qui produit cette vapeur, et on peut exploiter cette production de vapeur pour des effets originaux. Bien. Alors, comme toujours, j'emprunterai, comme toujours dans un travail de recherche, j'emprunterai à mes proches un certain nombre d'images et je voudrais remercier ici cinq remarquables élèves en thèse qu'on a au laboratoire en ce moment ou qu'on vient juste d'avoir, Guillaume Dupeux, Raphaël Thévenin, Dan Soto, Kevan Piroir et Philippe Bourriane. Et puis, je mentionne aussi le nom de Christophe Clanet avec qui j'échange beaucoup sur tous ces sujets. Alors, bien entendu, l'eau, d'habitude, n'est pas sur coussin d'air. Si je prends un morceau de plastique et que je place sur ce morceau de plastique un peu d'eau, eh bien, ce que j'observe, c'est un contact entre l'eau et le plastique, un contact qui se fait à peu près à l'échelle de cette goutte d'eau. Donc ici, une goutte millimétrique, un contact lui-même millimétrique. Et ce contact a deux conséquences très remarquables, très banales d'une certaine façon, mais tellement banales qu'on oublie de les voir. La première, c'est que ce contact permet à l'eau de coller, propriété quand même assez paradoxale. L'eau est un liquide merveilleusement fluide, sa viscosité est une des plus faibles des liquides qui nous environnent, et pourtant l'eau en goutte colle sur des pare-brises inclinées, ça a été dit tout à l'heure, sur des vitres verticales, parce que, y a un contact, et parce que par ce contact, on peut s'accrocher sur les défauts du solide. Mais quelquefois, on arrive à la mettre en mouvement. Par exemple, quand ces gouttes deviennent un peu grosses sur une vitre, on les voit qui se mettent à descendre en zigzagant. Et on doit s'étonner à ce moment-là qu'elles soient si lentes. C'est très frappant, elles vont peut-être à 1 cm par seconde, typiquement. Or, l'eau des rivières va peut-être à 1 mètre par seconde, alors qu'elle est sur une pente beaucoup plus faible. C'est-à-dire que la présence de ces contacts, et en fait, on va être un peu plus précis, la présence de ces coins de liquide engendre non seulement une adhésion très forte, mais elle engendre aussi une friction très particulière, ce que j'aime moi appeler la friction de ligne, qui est une friction exacerbée par rapport aux frictions usuelles des liquides, et tout particulièrement de l'eau, qui en principe coule bien. Donc de ce point de vue-là, il est intéressant de chercher des solutions où on évite le contact, et la solution sera en général le coussin d'air ou le coussin de vapeur. Je vous montre ici une expérience tout à fait historique, l'expérience de M. Leidenfrost il y a 250 ans, qui a l'idée de chauffer très fort le support. Donc, ce n'est pas du tout une solution qui va marcher de manière universelle, mais qui est très intéressante à observer et à étudier. Et à partir du moment où vous chauffez ce support à une température qui serait de l'ordre de 300 degrés et que vous recommencez l'expérience qui consiste à poser des petites gouttes, soudain, ces petites gouttes sont merveilleusement mobiles. On a manifestement résolu le problème de l'adhésion, elles ne collent plus, mais par ailleurs, on a aussi résolu le problème de la friction, elles vont à des vitesses qui redeviennent des vitesses qu'on prête à l'eau. Quelle est la raison de ce phénomène? Eh bien, Leidenfrost lui-même, homme inventif et observateur, l'a parfaitement compris et décrit de manière tout à fait remarquable. Pour ceux qui aiment le latin, je les invite à lire le Tractatus de Leidenfrost. Ce qu'il dit, c'est que cette eau, parce que le support est très chaud, disons 300 degrés, eh bien, cette eau ne touche pas son support. Il y a entre l'eau et le support, vous voyez ici le reflet d'ailleurs de cette goutte d'eau, eh bien, il y a un mince film de vapeur que Leidenfrost observait en plaçant une bougie derrière la goutte et regardait en incidence rasante la lumière passer sous cette goutte. Et cette absence de contact a un certain nombre de conséquences, dont la première est l'absence d'ébullition. On est sur une plaque à 300 degrés, il n'y a pas de bulle dans la goutte, ça ne bout pas parce que, on a parlé de nucléation tout à l'heure, parce que pour fabriquer des bulles, eh bien, il faut les nucléer, et la nucléation se passe au contact entre le solide et le liquide. À partir du moment où vous séparez le liquide du solide, avantage supplémentaire d'une certaine façon, vous supprimez l'ébullition, vous ajoutez, vous intercalez cette couche d'un isolant, et par conséquent, ces gouttes non seulement ne vont pas bouillir, mais vont vivre un temps étonnamment long, quelque chose comme plusieurs minutes, à condition de savoir les piéger. Et ce que faisait Leidenfrost, c'est qu'il prenait des petites cuillères, il les chauffait à rouge, et évidemment, dans ce piège gravitaire, il pouvait tranquillement observer ces gouttes. La deuxième chose qui doit nous frapper, c'est le fait qu'elles ont une forme particulièrement pure, une quasi-sphère, et ça, ça vient de la cohésion du fluide, quelque chose qu'a compris 50 ans plus tard Thomas Young, le fait qu'un fluide soit cohésif, le fait que ce soit de la matière condensée, fait que ces systèmes vont choisir la forme qui maximise le nombre de contacts entre les molécules, et ça, on peut le dire un peu différemment, qui minimise la surface de ces gouttes, par conséquent, qui va vers la sphère. On peut le dire mathématiquement, ça, on peut dire que, associé à la surface entre le liquide qui est ici et l'air qui est là, eh bien, il existe une énergie spéciale qui est proportionnelle au nombre de molécules qui sont à la surface, c'est-à-dire proportionnelle à la surface elle-même. Et donc le minimum de cette énergie, c'est le minimum de la surface, et c'est donc très naturellement cette tendance des liquides à être sphériques. Et puis on doit ajouter une troisième chose, qui est le seuil en température à partir duquel on observe ce genre de phénomène. Il faut chauffer assez, j'ai dit 300 degrés typiquement. Il existe une température dite de Leidenfrost, au-dessus de laquelle vous induisez cette lévitation produit ce film dont vous voyez l'épaisseur est typiquement l'épaisseur d'un cheveu. On a ici 1 mm pour la goutte, on a 100 microns pour l'épaisseur du film, et la raison de ce 100 microns est elle-même intéressante, c'est le fait que d'une part, vous avez un liquide en train de s'évaporer malgré tout, donc il est en train de nourrir constamment ce petit film de vapeur, mais en même temps, le même liquide appuie sur le film de vapeur, donc le fait fuir, et il y a un compromis entre ces deux effets manifestement antagonistes, un qui voudrait faire un film épais, l'autre qui voudrait faire un film mince, et c'est de cela que vous déduisez l'épaisseur de 100 microns que vous observez. On peut manifester cet état en faisant une expérience dite inverse qui est due à Faraday, donc on rencontre de grands noms dans l'histoire de la calefaction, c'est le nom de ce phénomène. Ce qu'a fait Faraday, lui, c'est qu'il a plongé dans un liquide, mettons de l'eau, des billes métalliques souvent, chauffées à très haute température. Donc dans cette expérience, qui est une expérience de Faraday sophistiquée, la bille est maintenue magnétiquement, et donc voilà pourquoi vous pouvez l'observer sans qu'elle tombe dans le baquet de liquide. Et ce que vous voyez, c'est que pour cette bille dont la température initiale est de 400 degrés, eh bien, un film de vapeur, de la même façon, entoure et sépare la bille chaude du liquide froid. Naturellement, cette vapeur tend à monter, et parce qu'elle tend à monter, se forment au pôle nord de cette espèce de planète, se forment des bulles qui, périodiquement, s'en vont. Mais comme vous le comprenez dans cette expérience, petite différence avec l'expérience de Leidenfrost normale, la calefaction normale, ici, la source de chaleur se tarit petit à petit, c'est-à-dire que dans ce bain d'eau qui est à une température, disons, de 20 degrés, eh bien, la bille va voir sa température décroître graduellement, si bien qu'à un certain moment, et c'est une très bonne manière de le caractériser, si bien qu'à un moment, on va traverser cette fameuse température de Leidenfrost à partir de laquelle on installe ce film de vapeur. Et ce film est aussi un film à voir, puisque vous avez ici la version dynamique de ce que je suis en train de vous raconter. La température est en train de décroître, et très soudainement, vous voyez une explosion, le contact s'établit entre le liquide et le solide, et vous êtes capable de dire, eh bien, ça s'est passé exactement à 200 degrés, et donc vous êtes capable de caractériser cette température de transition par l'expérience de caléfaction inverse de Faraday. Bien, je vous remonte le film, et la transition vers le contact est évidemment très brutale, très soudaine, et très remarquable. Alors, ceci est évidemment un petit peu particulier. C'est de l'eau sur des plaques très chaudes, et ce qui va nous intéresser, c'est des matériaux où on pourrait avoir cet effet de coussin d'air ou de coussin de vapeur, mais aux températures usuelles, disons à 20-25 degrés. On trouve chez les... toujours en latin d'ailleurs, on trouve chez les auteurs anciens de remarquables observations sur ce thème. Et tout particulièrement chez Pline, dont l'histoire naturelle vient d'être éditée par la Pléiade, et donc j'emprunte à cette toute nouvelle édition de la Pléiade la traduction de M. Schmitt, qui nous dit, des gouttes d'eau, quand elles sont placées sur de la poussière ou déposées sur le duvet des feuilles, les gouttes apparaissent d'une rondeur parfaite. Donc quelque chose qui est très similaire à l'image que je viens de vous montrer, et vous admirerez le sens d'observation de Pline. Ce n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il faut que ce liquide, cette eau, soit sur de la poussière, donc de la matière pulvérulente, disons, ou non pas sur des feuilles, mais sur le duvet des feuilles. Donc des feuilles qui ont une propriété spéciale, qu'au premier ordre, on pourrait aussi qualifier de pulvérulente, quelque chose de divisé. Ce qui est très remarquable, c'est qu'en l'an 77, 2 ans avant l'explosion fatale du Vésuve pour Pline, eh bien, nous avons ici un programme de recherche qui s'est trouvé activé, je dirais, autour des années 2000. Cette histoire de placer de l'eau sur la poussière, par exemple, peut être fait, en effet, et si vous prenez de la poussière raisonnablement hydrophobe et que vous placez de l'eau sur cette poussière, comme nous le suggère Pline, eh bien, après une petite agitation, somme toute naturelle, eh bien, vous avez obtenu une goutte protégée par la poussière et qui, par conséquent, sur n'importe quel substrat, fera la sphère qu'on a vue, mais cette fois-ci, évidemment, à 20 ou à 25 degrés. Et elle résiste aux différents modes de torture qu'on peut lui imposer, la division, le choc, et ainsi de suite. Vous avez texturé les interfaces. Ici, vous avez texturé l'interface entre le liquide et l'air qui l'entoure, mais naturellement, on peut aussi directement texturer le substrat, ça c'est le duvet des feuilles, et quand on observe, en effet, de l'eau sur des feuilles duveteuses, ici de l'eau, je reprends l'exemple du lotus, qui est un exemple en effet emblématique, eh bien, vous observez de parfaites petites sphères d'eau, et vous pouvez vous interroger sur ce caractère duveteux, et comme l'ont fait les botanistes allemands Bartlott et Nienhuis, vous pouvez, au microscope électronique, regarder différentes feuilles qui auraient cette propriété. Différentes feuilles et aussi différents animaux, puisque le monde du vivant va se partager de manière très équitable entre végétal et animal du point de vue de ces matériaux spéciaux dont je vais vous parler. Si vous regardez le lotus, on a vu la photo tout à l'heure, vous avez des sortes de petits pains de sucre à l'échelle de 10 microns, mais il est tout à fait clair que ces pains de sucre sont eux-mêmes texturés, nanotexturés, par des petits morceaux de cire, des petits cristaux de cire, à l'échelle, cette fois-ci, plutôt de la centaine de nanomètres. Si vous regardez la feuille de magnolia, eh bien, vous avez une texture qui est assez différente, le rapport d'aspect est beaucoup plus grand, on retrouve les mêmes textures de cire. Et si maintenant c'est à la Drosera que vous vous intéressez, cette petite plante carnivore qu'on trouve dans les régions humides d'Auvergne, par exemple, eh bien, la surface est formidablement différente. C'est cette fois-ci un réseau non tissé de fibrilles qui sont largement submicroniques. Et immédiatement, on peut se dire, sur ces trois plantes, on a trois textures différentes. Pourquoi ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la nature développe, alors qu'elle a trouvé un artifice pour séparer le liquide de son substrat, pourquoi est-ce qu'on a des textures différentes ? En général, on ne sait pas répondre à cette question. D'ailleurs, on ne sait même pas répondre à la question pourquoi certaines de ces plantes sont superhydrophobes. Le ginkgo biloba, par exemple, pourquoi est-il superhydrophobe ? Le magnolia, on ne le sait pas non plus. Le lotus, c'est plus clair, il vit dans des régions et dans des endroits où l'eau ne manque pas. D'accord ? Donc pour lui, il s'agit plutôt de se protéger de l'eau. Mais très souvent, on ne sait pas répondre à cette question. Je vais tenter de vous donner quelques exemples où on interroge la fonction que portent ces différentes textures directement sur les exemples naturels, sans aller vers le biomimétisme. Je vous montre un quatrième exemple, très remarquable, qui est celui de la patte du géris, ce qu'on appelle communément l'araignée d'eau. Ce n'est pas du tout une araignée, c'est cet insecte banal, d'une certaine façon, qu'on voit marcher à la surface de l'eau, qu'on voit bien d'ailleurs, il est grand, il fait un bon centimètre, et ses pattes ont à peu près l'épaisseur d'un cheveu, elles sont posées comme ça, à plat, sur le liquide. Ce cheveu, vous devez le voir comme ça, avec ici un diamètre qui ferait une centaine de microns, et il est également micro et nanotexturé par une texture très particulière qui, d'une part, se présente comme des petites fibres coniques. On a vu un exemple d'ailleurs de cône tout à l'heure, première particularité. Et deuxièmement, ces petits cônes sont anisotropes, c'est-à-dire que si le cheveu est une barre horizontale qui est ici, eh bien ces petits cônes sont posés de manière anisotrope. Donc là, il y a toute une complexité et tout un dessin, un design, qui est manifestement fait pour remplir des fonctions. Et je vous donnerai un exemple, une interprétation des fonctions possibles qu'engendre ce matériau très spectaculaire. Photo ici qui est due à Lei Zhang, que Clément Sanchez a cité tout à l'heure, qui est chercheur à l'université, chercheur très créatif à l'université de Pékin. Alors évidemment, vous pouvez reproduire exactement, j'emploierai vraiment le même mot que celui qu'il a employé, je lui emprunte naïvement ces structures, c'est-à-dire chercher une structure qui soit la plus simple possible et qui emprunte à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire des plots, et plaçant ces plots, par exemple, à l'échelle de 10 microns, encore que nous avons vu que les échelles peuvent être relativement différentes, et il est intéressant de se demander pourquoi, quelquefois c'est à très petite échelle, disons 100 nanomètres, quelquefois à plus grande échelle, eh bien on peut placer des plots, les couvrir d'une substance hydrophobe, très important, il faut qu'il y ait quelque chose comme une monocouche de cire ou de fluor à la surface de ces matériaux, et à ce moment-là, si vous venez coiffer ce matériau d'une goutte d'eau millimétrique, à une échelle évidemment beaucoup plus grande que l'échelle de ces plots, eh bien, vous observez ce qu'a observé Leidenfrost. C'est-à-dire que vous observez que si vous placez votre bougie derrière la goutte d'eau, eh bien, la lumière passe entre l'eau et son reflet. Et ça, ça vient de deux choses. Ça vient d'une part que la densité de plots dans cette expérience est faible, de l'ordre du pourcent, disons, ou de quelques pourcents. Et ça vient d'autre part du fait que parce que ces plots sont hydrophobes, quand l'eau arrive à sa surface, eh bien, elle choisit de rester au sommet. Elle choisit de faire ce que le fakir est censé faire sur son tapis de clous. Je reprends l'image du fakir. Et non pas de rentrer à l'intérieur des plots, auquel cas vous auriez un substrat qui serait très adhésif pour l'eau. Ici, nous cherchons la mobilité, nous cherchons le coussin d'air, et nous comprenons que puisqu'il y a quelques pourcents de plots en densité sous cette goutte, eh bien, il y a 100 moins quelques pourcents, c'est-à-dire disons 95%, 97% d'air, nous sommes à 97% de cette situation magnifique de Leidenfrost, de la caléfaction, mais nous sommes à froid, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu besoin de chauffer les substrats. Bien. Alors, quel est le minimum qu'il faut faire pour satisfaire cette condition ? Pas tout à fait évident. L'eau arrive, je prétends, on voit directement qu'elle se pose à la surface des plots, mais elle pourrait aussi pénétrer et ce serait très différent. Eh bien, faisons un dessin de cette situation. Voilà des plots, voilà l'eau au-dessus de cette ligne bleue, et puis là-dessous, des cavités d'air qui vont assurer ce que j'appelle le coussin d'air. Et voyez que si je fais ça, eh bien, je place sous cette goutte des tas de lignes de contact. Je place des tas de points où coexistent le liquide, le solide et la vapeur. Et donc on va faire un zoom sur une de ces lignes de contact et on s'aperçoit à ce moment-là que la ligne de contact peut se placer à l'endroit qui réalise l'angle que ce liquide veut faire sur ce solide. Souvenez-vous, c'est un solide hydrophobe. On a fait tout ce qu'il fallait pour le faire. On l'a couvert d'une mince couche de téflon conforme au plot qu'on utilise. Et à ce moment-là, nous savons que, c'est la définition que je vais employer pour le mot hydrophobe, que l'angle, 107 degrés, nous a dit tout à l'heure Clément Sanchez, eh bien nous savons que l'angle est obtus. Et nous cherchons s'il est possible d'arrêter une ligne, ici, entre donc à nouveau l'eau et l'air, avec un angle qui serait obtus. Et nous nous apercevons qu'il y a toujours une solution. Il n'y aurait pas de solution si jamais l'angle était aigu. Si je place de l'huile sur une surface de ce genre, elle va rentrer dans les plots, mais nous nous apercevons qu'il existe une et une seule position pour un angle donné, mettons 120 degrés ici, et donc il y a bien la possibilité d'arrêter l'eau et donc de préserver le tapis de fakir. Et donc vous voyez que là, il y a évidemment une idée importante, c'est que à partir du moment où vous voulez faire le dessin d'une surface de ce genre, eh bien il convient de réfléchir au design des plots que vous allez installer. Ce n'est pas du tout anodin. Si vous faites une ligne un peu trop molle, eh bien il n'est plus possible de bloquer le liquide à la surface des plots. Bien. On peut maintenant mélanger mes deux thèmes, les deux thèmes de mon introduction. On peut mélanger le phénomène de caléfaction, solide chaud, et la superhydrophobie. Ce qu'on peut faire, c'est installer des textures à la surface, à la surface de n'importe quel matériau, par exemple la bille d'acier tout à l'heure, et puis chauffer cette bille d'acier, l'amener à 400 degrés, la placer dans l'eau. Ça, c'était la bille d'acier que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ça, c'est une bille d'acier couverte d'une microtexture à l'échelle micronique qui est aussi une texture hydrophobe, qui va résister aux 400 degrés qu'on lui impose. Et nous regardons et nous comparons ce qui se passe sur une surface lisse et sur une surface texturée au fur et à mesure que la température de cette bille diminue, comme il se doit, puisqu'elle est dans un grand baquet d'eau qui, lui, est à 20 degrés. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, au début, c'est pareil. Tant qu'on est au-dessus de la température de 250 degrés, disons, c'est pareil. Ici, ça explose, et là, rien ne se passe. Là, rien ne se passe, et ça continue à fabriquer de l'air, parce que cette bille est chaude, donc on émet de la vapeur, cette vapeur se rassemble au pôle Nord, fabrique des bulles petit à petit, et puis petit à petit, ça se calme, parce qu'évidemment, la température est en train de diminuer, et l'évaporation cesse pratiquement. Si bien que, en mélangeant nos deux thèmes, nous avons engendré une nouvelle classe. J'ai dit nous, mais c'est un nous très abusif, puisque c'est une expérience qui est due à Ziggy Thorotzen l'année dernière. Ziggy Thorotzen a engendré un état où on prolonge l'état de caléfaction, et on verra l'intérêt de faire ça tout à l'heure, par de la superhydrophobie dans des domaines où, en principe, ça devait bouillir. Et donc, à ce moment-là, on maintient cet état lévitant grâce à ces textures. Donc, c'est d'une certaine manière, c'est une première fonction qu'on peut attribuer à ces textures. On maintient cet état jusqu'à la température d'ébullition du liquide. Donc, au lieu de commencer cet état de caléfaction très remarquable, cet état sur coussin de vapeur à 200-250 degrés, eh bien, il débute sur ces surfaces spéciales dès 100 degrés. Et on verra ce qu'on peut en faire un peu plus tard. Bien. Alors, j'en ai terminé avec un espèce de schéma général. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est discuter les fonctions qu'on arrive à engendrer dans la nature. Il n'y en a pas qu'une, comme vous allez voir, en se servant de matériaux texturés hydrophobes. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle communément l'effet lotus. C'est le fait que, ayant ici une feuille de lotus inclinée, eh bien, j'attends que quand je pose une goutte d'eau à sa surface, eh bien, puisqu'elle est à la surface des petits plots qui composent la feuille de lotus, eh bien, j'attends que l'adhésion soit minimale et donc j'attends de la mobilité. C'est la première chose. Alors même que cette pente est relativement faible. Alors, on a cette mobilité. On est d'ailleurs obligé de filmer à la caméra rapide pour voir ce qui se passe, parce que non seulement on a une non-adhésivité, mais on a en plus une grande mobilité. Et ce qu'on voit, c'est une goutte qui va dévaler relativement vite, elle va évidemment venir de la gauche, mais par ailleurs, on a pollué cette feuille de lotus, on l'a saupoudrée de poivre, et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est d'une part ce liquide très mobile, je crois qu'on le devine, même si c'est très ralenti, et à partir du moment où il rencontre le poivre, eh bien, il emmène le poivre avec lui, comme vous le voyez, c'est-à-dire qu'on a un effet qu'on peut qualifier de manière légèrement abusive d'auto-nettoyant, pas tout à fait auto-nettoyant, il faut quand même le concours de l'eau, mais l'eau seule de pluie, permet d'emporter les contaminants. C'est ça souvent qu'on appelle l'effet lotus. Alors, en fait, l'effet lotus, ce qui est remarquable dans cette expérience, ce n'est pas tellement que le liquide emmène les particules de poivre. Ça, c'est normal. Je vous ai dit tout à l'heure, de l'eau se met en boule pour minimiser sa surface, mais si maintenant je place à la surface de l'eau une particule de poivre, eh bien, je supprime de la surface, et donc c'est favorable. Donc ça, c'est une propriété banale. Toute goutte d'huile, d'eau, aura cette propriété. Mais ce qui n'est pas banal, évidemment, c'est la très grande mobilité qui vont permettre à ces gouttes de voyager et de faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire de faire l'aspirateur sur la surface sur laquelle elles passent. Deuxième fonction, donc ça c'est une fonction de nettoiement et d'évacuation des liquides en dévalement. Deuxième fonction, fonction à l'impact. La pluie en général, elle arrive avec de la vitesse. Et quand vous exposez une feuille de lotus à une pluie c'est fait de gouttes de taille variée, de vitesse variée, voilà une pluie de laboratoire, et quand vous exposez une feuille de lotus à une pluie, ben, ce que vous voyez, ici très ralenti naturellement, ce que vous voyez c'est que toutes les gouttes, avec des modes un peu différents selon leur vitesse, selon leur taille, toutes les gouttes rebondissent, c'est-à-dire que ces surfaces ont une fabuleuse capacité à renvoyer le liquide d'où il vient, et la raison c'est qu'on a minimisé l'adhésion, et que par conséquent ces gouttes au moment où elles arrivent à cause de leur vitesse vont se déformer, elles augmentent leur surface, elles stockent de l'énergie sous la forme de surface, et donc ce stockage d'énergie, tout à fait à l'instar de ce qui se passe avec un ressort, est capable de se recombiner en énergie cinétique et de leur permettre de s'en aller. Si bien que, eh bien, ça peut pleuvoir, mais le liquide est renvoyé. Troisième fonction, soutenir. L'eau en goutte, c'est une des possibilités, mais l'eau à grande échelle, c'en est une autre. Et le géris, dont on parlait tout à l'heure, le géris, avec sa taille centimétrique, eh bien, il a la capacité d'être soutenu par l'eau, grâce à ses pattes superhydrophobes, alors même que si vous faites cette expérience cruelle qui consiste à appuyer sur un géris et à le faire passer sous l'eau, eh bien, vous le verrez navré, vous le verrez couler. Donc, il faut une sphère de vie et de mort pour ce géris, il faut que la patte soit suffisamment hydrophobe pour qu'au contact de l'eau, l'eau se déforme, et se déforme d'une telle façon qu'elle a l'air de refluer de la pâte, ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, j'ai courbé l'eau, et là on peut le dire de plusieurs manières, mais peut-être la manière la plus simple, c'est de se servir de ce que nous a appris Laplace. Laplace nous a dit, quand on courbe l'eau, ça fait de la pression dans l'eau, et donc cette pression, elle est en train de résister à l'action du géris, au poids du géris. Donc voilà une troisième action, beaucoup décrite en particulier par John Bush au MIT dans les années 2000. J'ai rangé mes fonctions, pour l'instant, nettoiement, dévalement, anti-pluie et sustentation, je les ai rangés par ordre de complexité croissante. Et là, j'arrive à quelque chose qui devient plus sophistiqué. Je vous présente la colombole, un des animaux les plus fréquents à la surface terrestre. On ne sait pas très bien si c'est un insecte ou pas, on ne sait pas très bien le classifier. C'est ce que vous trouvez quand vous, courageusement, je dois dire, quand vous mettez la main dans de la terre humide dans une forêt et que vous remontez votre main, en principe, il y aura une centaine de colamboles dans votre main, avec une échelle ici qui est de l'ordre du millimètre. Ces animaux vivent dans des sols extrêmement dégradés, ou plus exactement dans des eaux extrêmement dégradées, ces sols très humides, aussi la surface des mares. Et le fait que les eaux soient dégradées veut dire que cette eau à laquelle ils sont exposés, et à leur petite échelle, il ne faudrait surtout pas que ça rentre dans le corps, par exemple, eh bien, cette eau est presque de l'huile, si on veut, hein, du point de vue, par exemple, de ce qu'on appelle sa tension de surface, c'est-à-dire sa résistance à la déformation. Et la très bonne idée de Christophe Nainuis, récemment, ça a été d'observer la carapace de la colambole en se disant résister à l'eau très dégradée, c'est tout de même beaucoup plus contraignant que de résister à de l'eau pure, voyons à quoi ça ressemble. Et ce qu'il a vu, c'est une structure absolument extraordinaire. Je veux dire, il y a un contraste entre ce corps épouvantable, cette espèce de monstre que vous avez là, et le raffinement extrême que vous trouvez à sa surface, à une échelle abracadabrante, à l'échelle de 500 nanomètres. Ce que vous avez, c'est une structure qui, on peut dire, à premier ordre, serait des sortes de piliers, si vous voulez, mais ces piliers nous paraissent extraordinairement sophistiqués. Et ce qu'a réussi à faire Christophe Nainuis, je veux dire, après un an d'effort, c'est faire la coupe d'un de ces piliers. Et à ce moment-là, il produit cette image absolument extraordinaire, avec toujours la même barre ici, qui est 500 nanomètres. Ce qu'il voit, c'est que ces piliers ont un caractère vaguement fractal, on peut dire. Il y a au moins deux échelles, si vous voulez. Il y a l'échelle ici du gros pilier, si on peut dire, et puis il y a l'échelle du tout petit pilier qui est là. Mais ce que je voudrais surtout vous faire remarquer, c'est l'existence de tas de points de rebroussement, de cavités, si on veut, mais aussi de points de rebroussement. Et ce point est justifié par le fait même que cet animal va être exposé à des surfaces, à des eaux très dégradées. En fait, expérience très intelligente qu'a fait Christophe Nainuis, c'est de placer ces animaux sur de l'eau, très bien, puis sur de l'eau un peu alcoolisée, et puis sur de l'eau de plus en plus alcoolisée, jusqu'à aller jusqu'à l'alcool pur. Alors là, à ce moment-là, vous avez une eau qui résiste très peu, hein, vous avez quelque chose, vous savez bien que l'alcool se déforme beaucoup plus facilement que l'eau, et il a constaté que ces animaux sont capables de flotter, de marcher à la surface de tous ces liquides. Ils se deviennent un peu sous quand ils sont sur l'eau alcoolisée, mais enfin, ils marchent à la surface comme si c'était de l'eau pure. Et la raison semble être l'existence de ces textures extraordinairement ourlées. Si vous revenez au principe, eh bien vous dites d'ajouter des points de rebroussement à la propriété suivante. Je considère que le plus simple type de surplomb que je puisse imaginer, c'est une espèce de tête de clou, si vous voulez. J'imagine que le liquide est resté suspendu. Je veux préserver mon coussin d'air, ça c'est absolument crucial. C'est ce qui va faire qu'on repousse le liquide qui est au-dessus, qui n'est plus de l'eau cette fois-ci, qui pourrait être une huile. Et à ce moment-là, on comprend qu'il existe bien sur cette nouvelle surface une position où l'angle a le droit d'être aigu, ce qu'on trouvera pour de l'alcool, ce qu'on trouvera pour une huile, et où pourtant le liquide peut s'arrêter. Et donc on peut préserver les poches d'air, et par conséquent, on peut engendrer, au-delà de la superhydrophobie dont j'ai parlé dans un premier temps, de la superoléophobie, ce que nos collègues américains Garrett McKinley et Bob Cohen ont appelé de l'omniphobie, mélangeant harmonieusement grec et latin, c'est-à-dire la possibilité de repousser tout type de liquide. Donc voilà une fonction très remarquable, c'est-à-dire que vous allez plus loin, grâce à ces textures très sophistiquées, vous allez plus loin que la superhydrophobie dont je parlais auparavant. Alors, je ne sais plus très bien, je dois en être à peu près à 4 fonctions, et en termes d'exigence, je vais, je crois, franchir encore un pas, qui est de dire, et si maintenant les gouttes que j'ai considérées à l'échelle de la pluie millimétrique, puis à l'échelle des mares, c'est-à-dire métriques, si maintenant cette eau, je la considérais plutôt à l'échelle de 10 microns. 10 microns, c'est la taille des gouttes d'eau dans un nuage, et on peut imaginer, moustique par exemple est très familier de ça, des insectes qui vivent dans les nuages, qui s'exposent à des gouttes qui feront plutôt 10 microns. Et puis, sans parler des animaux, on peut évidemment penser à la rosée du matin. On peut penser à l'eau qui se condense et qui fait des gouttes infinitésimales, microniques disons, c'est un nuage qui arrive, micronique, 10 microns, quelque chose comme ça, c'est-à-dire comparable à la taille des textures. Souvent, nos textures étaient à l'échelle de 10 microns. Et là, on se dit, ça va être le désastre, parce que autant j'arrive à comprendre mon fakir quand je prends une très grosse goutte à l'échelle des petites textures, autant une toute petite goutte va pouvoir s'intercaler entre les plots, et par conséquent, on va piéger le liquide, et on risque de faire de l'eau ultra-collante sur ces surfaces, et donc finalement, pâtir de la texture qu'on avait imaginée pour repousser l'eau. Alors, je vais vous montrer, et c'est un domaine très actif aujourd'hui, sur lequel il y a beaucoup de débats, à vrai dire, il n'existe aucun matériau artificiel, à ma connaissance, qui va avoir les propriétés des matériaux naturels que je vais vous montrer, et je vais vous montrer trois de ces matériaux. D'abord, une expérience de Chua Wa-Chen à Duke, aux États-Unis, qui regarde de l'eau se condenser sur, premièrement, une feuille de lotus, donc on l'a rencontrée tout à l'heure, et vous vous souvenez que sur une feuille de lotus, certes, il y a des plots à l'échelle de 10 microns, mais il y a aussi des petits cristaux à l'échelle de 100 nanomètres, donc il existe une texture fine, ou alors une surface que vous voyez peut-être mal ici, mais qui est remarquable, qui est faite de, simplement de petits cônes rigides, à une échelle vraiment très petite, qui est l'échelle de la 200 nanomètres, et qui est ce que vous trouvez sur les feuilles, c'est un lapsus intéressant, sur les ailes des cigales. Donc, vous condensez de l'eau là-dessus, et qu'est-ce qu'on voit quand on fait cette expérience? On voit de très très petites gouttes, il faut évidemment se mettre sous microscope, il faut aussi se mettre sous caméra rapide, parce que tout ça va très vite. Ces petites gouttes croissent tranquillement, et puis de temps en temps, elles rencontrent leurs voisines, et à ce moment-là, deux petites gouttes coalescent. Bon, et puis ensuite, ça continue à croître, et puis cette goutte moyenne, si on peut dire, on va être tout le temps à l'échelle de 10 micromètres ici, va rencontrer sa voisine, et ça va coalescer. Donc la croissance d'une goutte se passe sous la forme de marches d'escalier, ça c'est les événements de coalescence, mais chacune de ces marches est légèrement en pente, parce que ce liquide s'accroît de la vapeur qui est en train d'arriver. Eh bien, ce qu'a vu Chen sur ces deux exemples, c'est quelque chose qui est absolument remarquable, et qui vient d'une observation, qui était une observation connue, qui est que, quand la rosée du matin se dépose, eh bien, les végétaux en général sont couverts de liquide, mais le lotus a l'air sec. En fait, si on s'approche, on voit une sorte de voile très très léger. Mais enfin, il n'y a pas du tout la quantité d'eau qu'on peut voir sur les plantes qui sont à côté. Et donc, c'est ça qui l'a intéressé. Il s'est demandé si par hasard, il n'y avait pas une sorte de propriété anti-buée, quelque chose qui aurait la capacité de repousser la buée. Et vous allez voir ici un événement de coalescence, c'est-à-dire ces moments où les gouttes croissantes touchent leurs voisines. Et quand cet événement de coalescence a lieu sur une feuille de lotus ou sur une aile de cigale, eh bien à ce moment-là, vous voyez quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est que ces gouttes décollent. C'est-à-dire qu'elles s'en vont toutes seules, un petit peu comme dans l'expérience du rebond de tout à l'heure, sauf que là, elle n'est pas arrivée, elle est partie du sol, ce qui paraît plus ambitieux. Et la raison est très simple. La raison, c'est que quand vous avez deux gouttes qui n'en font plus qu'une, eh bien vous avez naturellement gagné de la surface. Une goutte aura moins de surface que deux gouttes, donc vous avez gagné de l'énergie de surface, et si jamais l'adhésion est suffisamment faible, eh bien, il y a possibilité de convertir cette énergie gagnée en énergie cinétique. Et cette conversion absolument élémentaire, vous écrivez énergie cinétique égale énergie gagnée, on connaît tout là-dedans, ça se passe à l'échelle de 10 microns, vous produisez une vitesse de décollage, et cette vitesse de décollage qui est de l'ordre du mètre par seconde est en effet la vitesse qu'on peut observer. Donc on a là des matériaux qui semblent être des matériaux anti-buées, qui ont la capacité, pour peu que la goutte soit assez grosse, mais enfin 10 microns, ça reste assez petit néanmoins, eh bien, qui ont la capacité d'expulser cette buée. Et puis cette buée, elle ne reviendra jamais. Cette petite goutte, vous avez vu sans doute dans ce film que je vous remontre, eh bien, vous avez vu qu'une fois qu'elle retouche la feuille, eh bien, exactement comme on l'a vu tout à l'heure, elle a la capacité d'y rebondir, et pour peu que la feuille soit en pente, ce qui est toujours le cas, eh bien, elle va disparaître à jamais. Alors, il y a peut-être un mécanisme encore plus sophistiqué du même genre, qui est quelque chose que j'étudie en ce moment avec un remarquable étudiant chinois qui s'appelle Wang, Tianbin Wang, et qui est à l'Université de Pékin, sous la direction de Lei Zhang, dont je parlais tout à l'heure. Et l'idée, c'est de regarder si par hasard, les pattes d'Égéris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ces cônes inclinés, si par hasard, les pattes d'Égéris n'auraient pas la même propriété. La vie du gyrisse n'est vraiment suspendue qu'à un fil, et ce fil, c'est sa patte. C'est-à-dire que, imaginons que dans l'humidité qui règne certainement au-dessus de la mare, imaginons que l'eau commence à pénétrer les intervalles entre ces petits cônes qui décorent la patte, imaginons que ça se passe, vous remplissez d'eau cette chose-là, et c'est terrible. À ce moment-là, l'eau, la patte devient mouillante, évidemment, puisqu'elle est remplie d'eau, et on l'a compris tout à l'heure, le pauvre gyrisse va être irrésistiblement attiré dans l'eau. Et ce n'est pas quelque chose qu'on observe visuellement. On a l'impression que, quand on se promène sur la planète, on les voit partout, on a l'impression que cette espèce s'est très bien accommodée de cette énorme contrainte qui est de survivre à la surface de l'eau. Donc l'idée, c'est de dire, faisons croître une vapeur à la surface d'une pâte de gyrisse. Et ce que vous voyez ici, vous ne voyez pas la pâte elle-même, elle est quelque part par là, une vue à très, très grossie sous microscope. Et ce que vous voyez ici, c'est les tout petits cônes qui sont inclinés, comme vous vous en souvenez sans doute, et ces petits cônes sont les textures qui décorent la pâte du gyrisse. Donc ce que vous allez voir, c'est des gouttes qui grossissent, et c'est assez étonnant de complexité. La première chose qui se passe, et c'est quand même une sorte de surprise, c'est que ces gouttes migrent plutôt vers l'intérieur de la pâte. Puis, il se passe une deuxième chose, c'est que quand elles sont assez grosses, elles sont expulsées. Et puis il se passe une troisième chose, regardez bien là, quand par hasard elles coalescent à la surface, là nous sommes tout à fait à la surface, alors elles se déplacent spontanément. Donc il y a au moins trois mécanismes en jeu. Le premier mécanisme, je vous remonte le film parce que, à nouveau, c'est quelque chose qui est assez riche. On voit d'abord cette migration très inquiétante, évidemment, puisqu'on se dit, ça y est, c'est fichu, les gouttes vont partir et imprégner la patte de l'araignée et ça va être fini. Mais au-dessus d'une certaine taille, ça se met à sortir tout seul et puis ensuite, ça se déplace tout seul. Donc l'idée est la suivante. D'abord, ce sont des cônes. Et en fait, un cône, naturellement, c'est géométriquement asymétrique. C'est-à-dire que l'environnement d'une goutte qui est à la surface d'un cône, eh bien, n'est pas le même d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même courbure, par exemple. Il y a plus de courbure à droite ici qu'à gauche. Eh bien, il est très facile de démontrer que sur une surface de ce genre, une goutte doit bouger parce que son environnement est asymétrique et donc les distributions de pression sont asymétriques. Et elle doit bouger dans le sens, je le disais tout à l'heure, un peu inquiétant, d'aller explorer l'intérieur de ces cônes. Inquiétant, mais pas forcément inutile, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des petites gouttes qui commençaient à croître à l'intérieur de ces cônes, et donc cette petite goutte qui part là-dedans va explorer l'intérieur du cône, va s'accroître des gouttes qu'elle rencontre, et donc va être une espèce, non pas de ramasse-miettes, mais enfin de ramasse-gouttelettes de ce qu'elle va trouver à l'intérieur. Et puis, en grossissant, elle va faire quelque chose d'intelligent, qui est d'écarter les petits cônes les uns des autres. Il y a une certaine flexibilité dans ces systèmes, qu'on peut d'ailleurs mesurer. Et à ce moment-là, c'est vraiment la savonnette que je prends dans ma main et sur laquelle j'appuie, et pfft, vous sentez que ça doit partir tout seul par l'élasticité de ce matériau. Et ça, c'est quelque chose qui est très facile à démontrer. Il suffit de mesurer la taille des gouttes éjectées et vous trouvez qu'en effet, c'est comparable à la distance qui existe entre ces petits cônes. Et puis, dernier mécanisme, peut-être inutile, celui-là, je ne vois pas forcément à quoi il sert, mais il est assez logique, c'est que quand deux de ces gouttes coalescent à la surface, eh bien, elles sont sur une surface qui est anisotrope, et ça c'est quelque chose par lequel on va conclure dans quelques minutes, et quand une goutte se retrouve sur une surface anisotrope, eh bien, elle n'est pas soumise aux mêmes forces de part et d'autre, alors ce n'est pas la même anisotropie qu'ici, mais enfin c'est aussi une anisotropie, et par conséquent, au moment de la coalescence, eh bien, elle n'a pas de raison de se mettre au milieu, elle va sans doute sûrement choisir la direction la plus facile, si on peut dire, et vous devinez que la direction la plus facile, c'est celle qui est dans le sens du poil, disons. Si la goutte caresse dans le sens du poil, la patte de l'araignée, eh bien, elle aura moins de friction que si elle le fait dans le sens antagoniste. Ça, c'est-à-dire, ça a été prouvé par Manu Prakash au MIT il y a quelques années. Et par conséquent, on comprend qu'on peut aussi faire avancer les liquides à la surface de ces matériaux. Donc un matériau qui nous apparaît soudain extraordinairement sophistiqué et où on commence à entrevoir le pourquoi de ce design fait de, premièrement, de cônes, deuxièmement, de cônes flexibles, troisièmement, de cônes orientés. Il semblerait que ce soit également un matériau anti-buée naturel. Je termine ce panorama des fonctions avec une remarque qui est de dire que le mot superhydrophobe doit avoir un synonyme qui est superaérophile. Dire qu'on déteste l'eau, ça ne veut évidemment rien dire, ça veut dire qu'on lui préfère quelque chose, et la comparaison c'est évidemment entre l'eau et l'air qui l'entoure. Et je voudrais vous montrer que dans la nature, cette fonction superaérophile est exploitée alors, par pas mal d'animaux, mais peut-être l'exemple le plus remarquable, c'est ce qu'on appelle l'argyronnette aquatique, cette araignée qui a choisi, il y a quelques millions d'années, pour des raisons que tout le monde ignore, d'aller vivre sous l'eau, et exclusivement sous l'eau, alors qu'elle a besoin d'oxygène. Alors quand on observe cette araignée, on voit qu'elle est couverte d'un film d'air, d'où son nom d'argyronnette, c'est le mot argent qui est là-dessous. Et si on observe son abdomen au microscope électronique, on trouve un abdomen très poilu, et chose très remarquable, chaque poil est lui-même poilu. Voilà un des poils de l'abdomen, et vous voyez qu'on voit des sous-poils, si on peut dire, sur la surface de ce poil. Bon, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne crois pas qu'il y ait du tout de compréhension de ce design, différent encore de tous ceux qu'on a vus jusqu'ici, mais très remarquable. La tête, elle, est lisse, et le dessous, non, mais le dessus de la tête. Donc cette araignée est chauve et en même temps très poilue du côté de l'abdomen. Et cette hydrophobie de l'abdomen fait que dès qu'elle est sous l'eau, dès qu'elle est partie sous l'eau, elle tire avec elle toujours un film d'air. Et ça, c'est une source d'oxygène qui n'est pas colossale, parce que la minceur de ce film, c'est quelques microns, mais qui est suffisante pour faire un certain nombre d'actions. Le charme de cet animal, c'est que souvent, ça ne suffit pas. Il lui faut plus d'oxygène. Par exemple, quand elle mange, quand elle a une activité extrêmement énergétique, il lui faut trouver une source d'oxygène à l'échelle de son corps. Et ça, ce n'est pas du tout le micron dont je viens de vous parler. L'échelle du corps de l'argyronnette, vous le devinez ici, c'est quelques millimètres. Donc que fait-elle? Eh bien, elle monte à la surface de la mare, Donc c'est quelque chose que vous allez voir dans ce petit film. Comment monte-t-elle ? Elle s'aide souvent d'une toile qu'elle fabrique sous l'eau et des plantes qu'elle affectionne. Vous allez voir que les plantes sont importantes. Là, elle se retourne. Elle place le haut de l'abdomen à la surface de l'eau. Mon film s'est bloqué, donc je le remontre. Et puis, une fois qu'elle a fait ça, eh bien, vous allez voir, elle va s'extraire de la surface supérieure de la mare. Et elle va s'extraire avec une vitesse qui n'a rien à voir avec cette vie paisible qu'elle a quand elle monte. Et on devine très fugitivement, c'est un film qui est tourné à 25 images par seconde, on devine qu'elle a entraîné en effet une très grande quantité d'air. Vous imaginez cet animal qui est en train de descendre avec une très grande quantité d'air, pas facile, c'est une espèce de Sisyphe, si on veut. Donc là, vous avez Sisyphe par le Titien, et vous avez l'équivalent chez les insectes du Sisyphe, c'est le bousier, d'accord ? Mais c'est un Sisyphe qu'on pourrait qualifier de Sisyphe à l'envers ici, parce que vous êtes un animal dense qui est en train de tirer quelque chose vers le bas qui est très léger, et c'est une vie épouvantable. Et c'est encore plus épouvantable que ce que vous croyez, puisque une fois qu'elle arrive dans les profondeurs de la mare, là, elle a coincé la maison qu'elle est en train de construire, vous avez ici la maison en construction, maison coincée par les plantes de la mare, et elle arrive avec cette très grosse bulle qu'elle incorpore à sa maison, et puis elle repart à la surface, où elle récupère une nouvelle bulle, une nouvelle brique d'air, on peut dire, et cette brique d'air, elle fait grossir au fur et à mesure la maison qu'elle est en train de construire, et elle va faire ça une quinzaine de fois, jusqu'à ce que la maison ait une taille suffisante pour la contenir. Et en ce sens, c'est là que vous devinez que c'est en effet une sorte de réincarnation, peut-être pour être plus précis, une incarnation de Sisyphe, qui est que cet animal est condamné à recommencer éternellement sa maison, parce que le moindre poisson qui passe, évidemment, va faire ce que cette maison, va entraîner ce que cette maison demande à faire, qui est de remonter et d'éclater à la surface de la mare. Donc, voilà un animal qui engendre une fonction manifestement liée à l'hydrophobie ou à l'aérophilie extrême de son abdomen, et où la dynamique joue un rôle très important. On peut faire une expérience que vous allez peut-être trouver très sèche après ces beaux films, une expérience d'argyronnette artificielle, où vous avez ici la tête hydrophile et le corps superhydrophobe, placer ce dispositif à une surface et tirer à une vitesse variable. Si on tire à vitesse modérée, eh bien, la bille, l'abdomen, ne change pas de taille, il porte le petit film argenté que vous avez vu, mais il n'entraîne pas de quantité significative d'air, ce n'est pas suffisant pour construire une maison. Si vous allez plus vite, et au-delà d'un seuil très bien défini, alors là, voilà une bonne solution, puisqu'on tire une bulle d'air dont la taille ressemble à la taille de l'abdomen, et ça, c'est vraiment la clé du succès pour l'argyronnette. Il faut absolument que ces deux volumes se ressemblent pour qu'elle n'ait pas à faire un nombre infini de trajets pour construire sa maison. Alors on pourrait se dire, puisque ce volume d'air est une fonction croissante de la vitesse, allons très très vite, peut-être on pourra construire la maison en une seule fois, expérience faite par Raphaël Thévenin très récemment, et en effet on tire une énorme quantité d'air, mais alors à ce moment-là on tire tellement d'air que la poussée d'Archimède va gagner et on perd la brique avant même d'avoir pu l'incorporer à la maison. Donc vous voyez que cette araignée a imaginé des points de fonctionnement intéressants puisqu'elle a été capable à la fois de trouver cette solution et naturellement d'exploiter celle-ci, parce que quand elle incorpore la brique d'air dans la maison d'air, il faut absolument que quand elle ressorte avec le moins d'air possible. Et on voit bien qu'elle va pouvoir jouer sur ses vitesses relatives pour fabriquer cette chose remarquable. Alors voilà ici, pour l'argyronnette femelle, 3 mm de rayon, ou l'argyronnette mâle, un cas d'ailleurs curieux où le mâle est plus gros que la femelle, dans le monde des araignées c'est absolument exceptionnel. Vous avez ici la quantité d'air entraînée en fonction de la vitesse, alors au-dessous d'un seuil très bien défini, essentiellement pas de volume, juste le petit film argenté, et puis ensuite, des quantités significatives lors de, vous voyez, de 20 mm3, c'est-à-dire le volume de l'abdomen lui-même. Et puis quand on va trop vite, évidemment, ça retombe à zéro à cause d'Archimède. Alors quel est le mécanisme là-dessous ? Le mécanisme, c'est qu'elle fore un trou dans l'eau, et en forant un trou dans l'eau, de deux choses l'une, soit ce trou aura le temps de se fermer alors qu'elle n'est pas encore partie, et c'est perdu, en tout cas c'est perdu pour faire une grosse brique d'air, ou alors ce trou se referme plus tard, et ça c'est ce qui va se passer quand elle va assez vite. Donc vous comprenez qu'avec cette analyse, qu'on peut rendre plus quantitative, eh bien on comprend qu'est-ce qui va définir les deux régimes qu'on vient de comprendre. Et si on revient à l'araignée elle-même et qu'on prend un film caméra rapide de cette araignée, on a eu la chance de pouvoir trouver une source d'araignée très récemment et les observer à la caméra rapide, eh bien on voit à ce moment-là que c'est presque vrai, ce qu'on vient de dire, à un petit détail près, qui est que les pattes jouent un rôle, manifestement, au moment où elle emprisonne cette bulle. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment reproduire en laboratoire. On peut essayer de comprendre quel peut être le rôle de ces pattes en construisant ici une fausse araignée à pattes Et à ce moment-là, on comprend que oui, eh bien, on tire un peu plus d'air, parce que les pattes forment comme une armure pour la bulle d'air qu'on fabrique, et qu'on déplace très légèrement le seuil, ce qui est une bonne chose pour l'araignée, parce que 30 cm par seconde, c'est une vitesse très rapide à l'échelle millimétrique d'une petite araignée, et on explore à ce moment-là la dynamique très remarquable de cet animal. Donc voilà un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions originales, et voyez, toutes reliées à la particularité et au design de ces animaux ou de ces plantes. Et ce que je voudrais vous raconter pour conclure, c'est un retour, disons, à la vie plus artificielle des systèmes humains, et revenir sur le premier exemple que je vous ai cité, d'un liquide sur coussin d'air, qui est la situation dite en français de caléfaction, c'est-à-dire celle où vous êtes sur une plaque très chaude et où vous placez un liquide, et vous attendez à ce moment-là des propriétés de mobilité évidemment extrêmes, et ainsi de suite. Tout ce qu'on a dit sur les surfaces superhydrophobes et en caléfaction se ressemble beaucoup, à un détail près, c'est que nous sommes en train ici de nourrir, comme on l'a dit, en vapeur, constamment, le film de vapeur. Et une question, c'est peut-on exploiter cette production de matière? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Eh bien, une réponse a été donnée dans une expérience absolument remarquable qui a maintenant 7 ans, d'un chercheur inventif suédois qui s'appelle Heiner Linke. Ce qu'a fait Heiner Linke, c'est qu'il a placé des gouttes en situation de lévitation sur des plaques très chaudes, et il a observé quelque chose de plus que ce que je vous ai raconté. En plus de la lévitation, il a observé un mouvement dans une direction parfaitement bien définie, à une vitesse parfaitement définie. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il a un peu triché, peut-être qu'il a incliné sa plaque et puis qu'il a incliné la caméra du même angle. Non, il n'a pas triché. Ceux qui ont des bons yeux voient qu'il y a une source d'asymétrie, qui est la présence de petites textures à la surface de la plaque. On a parlé de textures à l'échelle de 100 nanomètres, on a parlé de textures à l'échelle de 10 microns, et on va parler maintenant de textures à l'échelle millimétrique, à l'échelle pratiquement de ces gouttes. Si vous plaquez des textures asymétriques en dents de scie, comme ici, et que vous les chauffez, eh bien, vous avez un mouvement, et je pense que si je faisais un vote sur quelle est la direction du mouvement, je ne suis pas sûr que ce soit si facile de deviner. Le mouvement se fait dans la direction qui paraît la moins favorable. C'est-à-dire, si vous passez votre main, eh bien, c'est sûrement celle qui ferait le plus mal. Et en effet, si on mesure la friction, c'est la friction est la plus grande, mais nous ne parlons pas de friction ici, nous parlons de force motrice, et la force motrice se passe dans la direction que vous êtes en train de voir ici. Donc cette goutte est en lévitation, elle repose sur un coussin de vapeur, elle est d'une mobilité extrême, une toute petite force doit la mettre en mouvement. Pour faire cette force, il faut une source d'asymétrie. Idée géniale de Linke, l'asymétrie va venir d'un petit dessin qu'on place à la surface de ces solides. Alors quel est le mécanisme? Un des charmes de l'article de Linke, qui a eu un très grand retentissement quand il est paru, c'est de ne proposer essentiellement aucun mécanisme. Et le mécanisme semble être le fait qu'il y a production de vapeur sous cette goutte, il y a écoulement de vapeur, nous l'avons dit, parce que la goutte est en train de l'écraser, mais cet écoulement de vapeur est rectifié par la présence de ces dents. Il a lieu préférentiellement, et ce film le montre, on a placé des petits traceurs, il y a lieu préférentiellement dans le sens qu'a choisi le liquide qui est au-dessus. Alors, c'est évidemment l'inverse qui se passe, c'est que l'écoulement de vapeur se passant préférentiellement dans ce sens-là, il tire avec lui le liquide qui est au-dessus par viscosité de l'air. L'air a une petite viscosité, c'est pas grand-chose, mais enfin, comme il y a de la lévitation, il suffit de pas grand-chose pour mettre notre liquide en mouvement et le faire avancer à une vitesse très significative, de 10 cm par seconde, dans les expériences qui sont ici. Un peu comme, vous connaissez cette force visqueuse, si vous regardez le fond d'une rivière, eh bien vous savez que la force visqueuse liée au fait que l'eau avance dans la rivière tire les petits grains de sable au fond de la rivière. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est à l'inverse, c'est l'air qui est en train de tirer ce qui est au-dessus. Alors, deux conséquences, pour finir cet exposé, deux conséquences de ce que je viens de vous raconter ici. C'est un système très intéressant, parce qu'il est en train d'emmener de la chaleur tout seul. Donc c'est un caloduc très remarquable, c'est un auto-caloduc en quelque sorte. Vous n'avez pas besoin d'appliquer de force, il avance tout seul. Mais il a tout de même des inconvénients. Si par exemple vous voulez vectoriser, si jamais vous voulez placer quelque chose dans la petite capsule d'eau qui est en train d'avancer, ben, vous devez accepter que cette capsule d'eau est à 100 degrés. Il se pourrait que la substance que vous mettiez ne soit pas heureuse d'être à 100 degrés. Et par ailleurs, il vous faut chauffer beaucoup. Souvenez-vous que la température à partir de laquelle on induit de la lévitation, c'est 200-250 degrés. Donc ça coûte cher en énergie, ça chauffe la pièce dans laquelle on fait ça. Or, tout à l'heure, nous avons dit, si jamais on texture une surface chaude, à ce moment-là, on peut aller vers des températures beaucoup plus basses. Donc regardons ce qui se passe quand on utilise ici une texture asymétrique, la même que celle que vous avez vue, mais saupoudrée de petits grains à l'échelle de 10 microns, donc vous ne les voyez pas, à l'échelle millimétrique de cette expérience, et vous commencez à 250 degrés, où ça marchait très bien sur une surface parfaitement lisse. eh bien, le fait d'avoir texturé la surface ne change rien, ça marche toujours aussi bien, et vous voyez un mouvement qui est exactement celui qu'on a vu précédemment. Maintenant, vous allez à 125 degrés. À 125 degrés, sur une surface lisse, ça bourrait immédiatement. Mais là, vous avez mis une texture hydrophobe, donc vous vous dites, j'ai préservé la lévitation. En effet, d'avoir préservé la lévitation fait que ce mouvement a lieu aussi à une température qui est, cette fois-ci, significativement plus basse. Alors à ce moment-là, on se dit, enfin, Philippe Bourriane qui a fait cette expérience, s'est dit, et si on allait sous 100 degrés ? Alors sous 100 degrés, nous savons qu'il n'y a plus de lévitation, il n'y a plus le film de vapeur, mais tout de même, il y a peu d'adhésion, et il y a tout de même encore un peu d'évaporation, donc peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Et cette solution est intéressante parce que non seulement vous chauffez moins, mais à ce moment-là, votre liquide a une température qui, si le solide est à une température lui-même inférieure à 100 degrés, eh bien le liquide va être une température banale, peut-être 50 degrés. Donc voilà la même expérience à 85 degrés, donc significativement en dessous du point d'ébullition de l'eau. Vous remettez votre goutte, on sait qu'elle s'évapore, mais maintenant on sait aussi qu'elle touche ce substrat, elle n'est plus en lévitation, et vous avez à ce moment-là la grande satisfaction de l'avoir avancé. C'est plus paisible, le film est très ralenti, dans le monde réel, elle va à 2 cm par seconde, c'est une vitesse appréciable en réalité, et à un coût énergétique évidemment beaucoup plus faible, et vous permettant de résoudre les problèmes qu'on a dit auparavant. Donc voilà une espèce d'application très directe des surfaces très hydrophobes, où vous exploitez évidemment la réduction extraordinaire d'adhésion que ça comporte, et vous engendrez des phénomènes nouveaux. Dernière application, ce que je vous ai dit, c'est que dans cette expérience, tout était dans le fait que, premièrement, il y a production de vapeur, deuxièmement, votre liquide appuie sur cette vapeur, troisièmement, la vapeur a un flux directionnel, elle ne part pas de manière isotrope comme elle le ferait si je posais de l'azote liquide sur cette table, disons. Ça vous donne l'idée de changer de design. Ça vous dit, n'importe quel solide sur lequel j'installe une texture qui force la vapeur à aller dans une certaine direction, eh bien, si j'ai de la lévitation, j'ai l'espoir que le liquide que j'ai au-dessus va suivre cette direction. Donc, ce qu'a fait Dan Soto très récemment, c'est de creuser sur des surfaces de laiton, avec une fraiseuse banale, des petits sillons. Ces petits sillons, cette fois-ci, sont tout ce qu'il y a de plus symétrique. Ce sont vraiment des petits créneaux vus en coupe. D'accord ? Donc, vous n'attendez pas, évidemment, de mouvement particulier sur une surface crénelée. Sauf qu'il a donné à ces créneaux une forme de chevron, comme vous voyez ici. Et alors vous vous dites à ce moment-là, si jamais j'arrive, que je chauffe cette surface, qu'un liquide arrive sur cette surface, qu'il lévite parce que la surface est assez chaude, la vapeur qui est par en dessous, eh bien elle va être forcée de suivre préférentiellement ces petits canaux, et donc ce liquide, lévitant, si ce que j'ai dit est vrai, devrait aller dans la direction préférentielle de la vapeur, c'est-à-dire dans le sens qui n'est pas celui de la flèche. Ce liquide devait contredire l'espèce de flèche que dessine le chevron. Donc c'est une expérience qui est très facile à faire. Vous placez votre liquide en lévitation sur ces surfaces et vous remarquez qu'en effet, ces liquides avancent. Et ce que vous réalisez à ce moment-là, c'est qu'en modifiant le dessin de ces solides autopropulseurs, en modifiant le dessin, vous vous donnez un outil pour travailler sur une question qui est intéressante. C'est le cran un peu moins naïf, disons, d'une recherche de ce genre, qui est la question de l'optimisation. Vous avez ici un paramètre très naturel qui est l'angle du chevron. Comment joue-t-il ? Si l'angle est très petit, ça ne doit pas très bien marcher. Si l'angle est très grand, ça ne doit pas très bien marcher. Il doit exister un optimum en force, par exemple. Et la force est très facile à mesurer. Regardez cette goutte, elle est en train d'accélérer. Nous avons appris de Newton une formule admirable. Force égale m fois l'accélération. La masse est connue, l'accélération est mesurable. On peut mesurer cette force. Et donc, vous variez l'angle de votre chevron. Et à ce moment-là, vous regardez ce qui se passe en mesurant cette force. Des forces toutes petites, mais grâce à la lévitation suffisante pour que ça aille vite. Et vous apercevez qu'en fonction du demi-angle du chevron, eh bien vous avez un optimum parfaitement marqué autour de l'angle intermédiaire, en quelque sorte, l'angle qui vaut 45 degrés. Et je ne résiste pas à vous donner un petit argument quantitatif pour comprendre pourquoi c'est 45 degrés. Le 45 degrés qu'on a appris à l'école comme l'angle qu'il faut donner à un poids pour l'envoyer le plus loin possible, eh bien on le retrouve sur une formule qui est exactement la même, mais pour une raison bien différente. Premièrement, quand vous placez votre goutte sur ces chevrons, la vapeur s'échappe préférentiellement dans cette direction. Et ce qui va tirer le liquide qui est au-dessus, c'est cette vapeur. Mais ça va le tirer selon l'axe, par symétrie. Et donc il faut projeter sur l'axe du chevron. Et ça engendre un cosinus. Deuxième argument, un peu plus subtil, un peu moins visible directement, vous devez aussi compter, sous cette goutte, le nombre de chevrons actifs que vous avez. Et ça, quand on fait ce dénombrement, eh bien, on trouve un sinus. On est sensible aussi à l'angle. Et donc vous avez une formule qui est 2 fois sinus cosinus. Le 2 est là pour des raisons esthétiques. Et 2 fois sinus cosinus, c'est sinus 2 alpha. Et l'optimum de sinus 2 alpha, c'est naturellement alpha égale 45 degrés. Donc on peut réfléchir sur des questions d'optimisation. La force la plus grande, celle qui vous permet de remonter une pente, par exemple. Et on peut aussi réfléchir sur l'optimisation en vitesse. C'est-à-dire que la force la plus grande ne produira pas forcément la vitesse la plus grande parce que ces gouttes, quand elles avancent, elles rebondissent sur des petites marches. Et on s'aperçoit, quand on fait ce travail, travail qu'a fait Dan Soto très récemment, on s'aperçoit que l'angle optimum, c'est plutôt 25 degrés. C'est-à-dire la force optimum, ça serait 45 degrés, mais la vitesse optimum, c'est plutôt un angle de l'ordre de 25 degrés. Et voilà une vue aérienne d'un dispositif où vous dites, bon, puisque maintenant j'ai trouvé la vitesse la plus grande, eh bien, ça doit aller assez vite pour ne pas trop s'évaporer sur une longueur de ce dispositif, longueur grande, hein, de l'ordre de 20 cm, disons. Par conséquent, utilisant la très faible friction que j'ai sur des surfaces de ce genre, si je fais ici un canal lisse, j'ai l'espoir, par inertie, de pouvoir trouver un autre de ces chevrons et d'engendrer des mouvements qui, au lieu d'être à l'échelle de quelques centimètres, disons, seraient maintenant à l'échelle de quelques mètres. Alors ça, c'est une vue aérienne de ce dispositif. Vous placez votre goutte en lévitation, vous l'amenez au voisinage du premier chevron, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous constatez qu'elle est en effet capable de faire un grand nombre de tours à cause d'une part de sa très faible friction, mais d'autre part aussi de l'impulsion qu'elle reçoit à chaque passage sur le chevron, naturellement, tout en s'évaporant. Ce n'est pas le mouvement perpétuel que vous êtes en train de regarder ici, c'est quelque chose dont l'origine même est l'évaporation de la goutte. Vous êtes sûrement sensible au fait que la goutte, à la fin de son trajet, est plus petite qu'elle n'était au début. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention.